Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Le commentaire de...
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Avec Félix Séguin, aujourd'hui, nous allons parler du crime organisé qui a eu aussi une période d'accalmie à cause de la COVID. Bonjour, Félix.
Salut.
Donc, la COVID a fait en sorte que les activités de la mafia ou toute autre organisation criminelle a été au ralenti au Québec.
Ben oui, et pas que ça, mais en partie, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que depuis la déclaration mondiale de pandémie, mais surtout depuis la mise sur pause du Québec décrétée au milieu du mois de mars par le gouvernement Legault, ça fait en sorte de limiter énormément les chances qu'avait de pour le crime organisé de se rencontrer. Donc, dans les cafés italiens où normalement on fait des rassemblements où on établit certains quartiers généraux, il y a eu fermeture, sauf quelques cafés comme le café Belle Rose à Laval, qui a déjà été mis à l'amende d'ailleurs parce qu'il a servi de lieu de rassemblement pendant la pandémie avec des membres bien connus liés à la mafia montréalaise qui ont été aussi mis à l'amende. Mais il y a aussi plus que ça. Faut bien mentionner que l'arrêt des sports d'équipe et puis des sports individuels sur lesquels on pouvait parier a fait en sorte que tout le réseau des paris sportifs illégaux s'est tombé à plat. Donc, qui dit baisse des paris sportifs dit aussi baisse de l'argent que certains doivent emprunter, puis baisse aussi de la plateforme sur laquelle on pouvait effectuer ces paris sportifs-là, dont les profits vont souvent dans les mains de la mafia. Mais il y a quelque chose de notable aussi. Il n'y a aucun meurtre lié à la mafia ou au motard qui est survenu depuis le début de l'année dans la grande région de Montréal. C'est vraiment un climat de paix assez rare. C'était une idée de mon collègue et fidèle partenaire Éric Thibault, avec qui on écrit beaucoup de textes sur le crime organisé là, en comptant bien tout ça. Éric s'est rendu compte que il y a une absence ou une quasi-absence de règlement de compte violent. Il y a eu 2 meurtres commis au Québec durant les 6 premiers mois de 2020 qui sont reliés au marché de la drogue. Et si tu veux, en pareille date l'an dernier, on en dénombrait déjà 12 qui étaient attribuables au crime organisé, au milieu des stupéfiants, selon la compilation qui a été faite dans le journal. À Montréal, aucun assassinat lié au crime organisé depuis le début de l'année. Quelques tentatives de meurtre, même constat dans les autres villes québécoises. Je dirais que c'est vraiment tout un changement, parce qu'entre les mois de janvier puis mai 2019, il y a eu 4 meurtres en lien avec le crime organisé qui avaient été commis à Laval et à Montréal. Et effectivement, la COVID-19 aurait probablement contribué à la calmie parce qu'elle a ralenti les activités clandestines de la mafia, des Hells Angels, des autres factions du crime organisé. Mais comme le crime organisé est une micro-société, c'est toujours multifactoriel. Il n'y a pas que ça. Il faut bien dire qu'il y a eu trêve entre clans.
Mettons, de la mafia ou entre les Hells et la mafia, mettons?
Hells et la mafia ne sont pas en guerre et n'ont jamais été en guerre. N'ont jamais été, au cours des dernières années, remontés l'un contre l'autre, puisque l'un a besoin de l'autre souvent pour fonctionner. C'est d'autant plus vrai maintenant parce que la mafia montréalaise s'est effritée. Elle a besoin de structures d'importation, notamment de cocaïne, des Hells Angels, et etc. Mais pour la première fois en 15 ans, on observe aussi qu'il y a une trêve entre des clans calabrais et siciliens de la mafia. Sais-tu pourquoi? Parce que ceux qui représentaient la tension, ceux qui représentaient l'incertitude, les frères Andrew Scopa et Salvatore Scopa, ont été assassinés l'an dernier. Alors, on nous a expliqué que cette guerre-là, parce que pas oublier que Salvatore Scopa était une personne qui avait décidé de s'en prendre au clan sicilien, puis il avait tué plusieurs mafieux. Et là, les deux sont décédés. Les deux sont morts. C'est mort violente, d'ailleurs. Ils ont été assassinés. Si tu veux te rappeler, là, probablement ce qui symbolise le mieux l'apothéose de cette guerre-là, c'est quand Salvatore Scopa a été tué devant des centaines de personnes à l'hôtel Sheraton de Laval en mai dernier. Puis tu te rappelles, ça avait provoqué un changement de ton important. Là. Les policiers avaient décidé de s'y mettre parce qu'ils y étaient déjà, mais disons de surveiller avec beaucoup plus de sérieux ces activités-là, parce que là, on commençait à avoir des gens qui se faisaient tuer dans des modus operandi qu'on ne voyait pas avant, devant des innocents. Une balle perdue aurait pu facilement atteindre un citoyen qui se trouvait là par hasard, ou quelqu'un qui se trouvait au restaurant pour aller célébrer une fête, ou etc. Alors, la pression avait monté. La Sûreté du Québec a ouvert la machine. Et après ça, Mendo Scopa s'est fait tuer en octobre dernier, le 21 octobre, dans l'ouest de l'île de Montréal. Et puis voilà, tout ça mis ensemble, ça a contribué à l'apaisement qu'on voit.
Ben, l'apaisement qui est souhaitable, donc pas de guerre entre les différents clans. Et c'est sûr que, tu sais, tantôt tu parlais des activités clandestines. C'était difficile de se camoufler dans la population. Là. S'il y avait eu un revendeur sur un coin de rue, il y avait personne sur les coins de rue. Il y avait pas se faire du blanchiment d'argent. Il faut que les commerces soient ouverts. Fait que, bref, c'était une période un peu de vacances pour les crimes organisés aussi. Mais est-ce que le crime organisé en a profité pendant cette période d'accalmie-là pour se refaire et mettre en place une stratégie de déconfinement du crime, appelons ça comme ça? Est-ce qu'ils sont en bonne position pour profiter de la relance?
Mondialement, là, ce qu'on est en train de constater, c'est que ce que tu dis là s'avère. Il y a eu des fluctuations dans le prix de certains produits qui sont trafiqués par le crime organisé, exemple comme la cocaïne, dont le kilo est passé d'une quarantaine de milliers de dollars à 72 000 $. Le prix du kilo de cocaïne a presque doublé en raison de la difficulté d'importation, notamment par voie aérienne, par voie terrestre et même par voie navale. Alors, ceci étant, il faut trouver parfois des nouvelles routes pour faire entrer la drogue, et les policiers et les mafieux sont en train de les trouver. Mais il y a beaucoup plus que ça. Le crime organisé profite toujours, puis je me fie à un article qui est écrit par la docteure en criminologie Anna Servi de l'Université Oxford, je ne m'abuse, en banlieue de Londres. Ce qu'elle dit, en fait, c'est que le crime organisé est en passe là, de profiter des structures économiques qui s'effritent. Par exemple, on a eu un bon avant-goût de ce que ça pourrait être ici avec les mises en garde qui nous ont été servies quand on était en train de débattre il y a une semaine et demie du projet de loi 61. Donc, celui où on accélérerait les grands projets d'infrastructures du Québec, mais d'un côté, pour les accélérer, ça veut dire que l'on doit être un peu plus mollasse sur les règles de gouvernance, mais les règles d'attribution, notamment de contrat, de ces grands projets en question.
Faire moins d'enquêtes. Alors, aussi sur qui demande le projet, qui fait la soumission, etc.
Alors, ce sont toujours, dis-toi que tous les experts le disent, chaque petite craque qui peut être utilisée par le crime organisé pour entrer dans l'économie légale sera utilisé. Donc ça, il y a un contexte mondial et global qui facilite les activités du crime organisé. Il y a le prêt usuraire aussi. Il comprend que plein de citoyens ne retrouveront pas l'emploi qu'ils avaient avant. Plein d'entreprises ont fermé. Il y a des gens qui devront se tourner parce qu'ils ne seront pas capables de se faire financer par les banques, par des moyens de financement alternatifs qui sont parfois détenus par le crime organisé. Une autre source de revenus supplémentaires par celle-là, par cette voie. Il y a aussi la fameuse PCU. Il y a eu un rapport gouvernemental qui nous a dit qu'il y avait déjà des tentatives de fraude à la PCU.
Totalement.
Qui étaient liées à certains membres du crime organisé. Alors, vois-tu où on s'en va avec ça? On s'en va vers un terreau fertile, si tu veux, aux abus. Et ces abus-là pourraient être symbolisés par, encore une fois, l'infiltration de l'économie légale par le crime organisé.
Ben, tout le monde l'a dit, là. Ceux qui vont sortir gagnants de cette crise-là, c'est ceux qui ont encore des capitaux. Et le crime organisé en a. Fait qu'ils vont pouvoir trouver les failles, ils vont pouvoir acheter des commerces, acheter des entreprises, et ils vont pouvoir profiter de la pauvreté des gens. Là. Le crime organisé, c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Les gens plus vulnérables qui se retournent, que ce soit pour du prêt ou que ce soit parce que ils vont tomber dans de la dépendance ou peu importe. Fait qu'effectivement, sont en bonne posture, qui est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous, là, bien sûr.
Exactement, comme dirait Claude Poirier, Jean-François, bien parlé.
Merci. Félix, c'était fort intéressant encore une fois aujourd'hui. Puis c'est pas pour rien que les séries sur la mafia, sur le crime organisé, etc., ça fonctionne toujours bien. C'est un milieu qui pique quand même notre curiosité. Alors, un grand merci.
Ça me fait plaisir. À demain.
À demain.